France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's and in the house.
Halia, Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Es.
Un jour dans le monde, c'est un jour dans le corps de Trump ce soir et un peu à côté aussi.
Je pouvais tous les tuer. Toi aussi, je pouvais te tuer. Mon ville, tu fais la loi. Mais ici, c'est moi. Ne fais pas chier. Ne fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu.
On a mis Rambo pour commencer cette conversation. Rambo, hein, mais pour de vraies raisons, et on va y venir, puisque Stallone est devenu référent Hollywood pour l'administration, comme Mel Gibson d'ailleurs. Mel Gibson, c'est Mad Max. Et comme John Voight aussi. Bonsoir Thomas Negaroff.
Bonsoir Fabienne.
Qu'on ne présente pas aux auditeurs d'Inter, vous êtes historien spécialiste des États-Unis. Le samedi, vous présentez ici même le grand face-à-face. Ce qui nous intéresse, Thomas, c'est la mise en scène, au fond, de cette nouvelle administration dans une forme d'Amérique idéale, parce qu'elle parle, c'est pour ça qu'on l'a entendu lui aussi, d'une sorte de masculinisation, parce qu'elle parle de la place de l'homme, ça veut dire qu'elle parle aussi de la place des corps, et peut-être qu'elle date même, j'allais dire enfin, le again de Make America Great Again. Vous, hier, vous avez vu, hier et les jours précédents, un retour à un again qui date des années 80.
Oui, alors il y a plusieurs again. J'étais à Washington lors de l'investiture du Trump 1. Donc c'était en janvier 2017, on s'en souvient.
Oui, on y était.
On était ensemble.
Oui, c'est vrai.
Et je m'étais amusé à demander dans la rue aux gens, aux Américains, avec leur casquette Make America Great Again, quand est-ce qu'elle était grande, l'Amérique. Et j'avais eu toutes sortes de réponses. Il y avait des gens qui étaient imprécis, d'autres qui disaient avant Obama, hein, parce que c'était quand même le grand épouvantail, l'ennemi absolu. Certains disaient les années 80, les années Reagan, d'autres les années 50, d'autres le début de l'aventure américaine. Bref, il y avait plein de réponses, et il n'y avait pas vraiment la réponse. Et en effet, elle s'est affinée, cette réponse, avec le temps. On avait des indices. Hein. Make America Great Again, c'est un slogan de Ronald Reagan. On avait cet indice-là. Et puis, en effet, le fait qu'il ait nommé comme ses yeux et ses oreilles pour Hollywood, ce qui est d'ailleurs un peu inquiétant. Hein. Ouais. Un président qui dit « je veux voir ce qui se passe à Hollywood » parce que ça me déplaît, à quoi ça sert. Il a nommé trois icônes, et surtout deux, Mel Gibson et surtout Sylvester Stallone, qui renvoie aussi à ces années-là. Donc en effet, je me suis dit « tiens, est-ce que les années de again, de grandeur, c'est pas les années 80, même si on a beaucoup pensé aux années 50 aussi ?»
Alors il y a les années politiques, et peut-être qu'on y viendra, mais il y a ce qu'on entend surtout dans ce que vous dites, c'est l'homme des années 80. Oui. En fait, c'est là qu'il nous renvoie Donald Trump.
Oui, avec un parallèle intéressant. D'abord, lui-même, c'est un homme des années 80. Pour beaucoup d'Américains, Donald Trump, il émerge dans la culture populaire dans les années 1980. Je ne sais pas si vous avez vu le film The Apprentice.
Bien sûr.
On montre bien sa montée en puissance. C'est vraiment là. Il est une incarnation. En France, c'est une sorte de Bernard Tapie. Oui. Si je vous dis Tapie, vous pensez immédiatement années 80. Bah, Donald Trump, on pense d'abord années 80, avant même de penser président des États-Unis dans les années 2010 et 2020 à nouveau. Et puis, ce qu'il y a aussi de très années 80, c'est le parallèle historique. C'est-à-dire que Donald Trump utilise, comme dans les années 80, l'idée qu'il y a un déclin de l'Amérique, que ce déclin est moral, mais surtout peut-être physique. Et c'est là que ça devient fascinant. Dans les années 80, au début des années 80, il y a le déclin moral, le Watergate, les mensonges de Gerald Ford, qui gracient quand même, encore des grâces. Hein,
premier jour.
Qui gracient le premier jour Richard Nixon, avant d'aller gracier les déserteurs américains de la guerre du Vietnam. Donc c'était quand même un signal qui n'était pas le meilleur signal possible. Et dans ces années-là, il y a l'idée déjà que l'Amérique, elle a failli moralement, mais aussi physiquement. C'est l'Amérique qui a perdu la guerre du Vietnam. Donald Trump ne cesse de parler de la défaite en Afghanistan. On est parti humilié, on a été humilié. Cette humiliation, elle est politique, elle est militaire, elle est diplomatique, mais elle est aussi physique. Et le parallèle, moi, que je trouve le plus passionnant, c'est la mise en avant des sports de combat par Donald Trump. C'est le catch pour rire, c'est le MMA pour être sérieux. Avec des grandes figures du MMA qui sont à côté de lui lorsqu'il gagne la présidentielle. Et dans les années 70, on disait l'homme américain, il est en train de se faire du mal physiquement. Il fait du running. C'est masochiste. On a entendu ça avec le fitness aujourd'hui. Il faut retrouver dans les années 80 le sport de combat, comme il faut aujourd'hui retrouver le sport de combat. Je trouve que le parallèle est fascinant et il n'est pas né de mon imagination. Il n'y a qu'à regarder comment Donald Trump se présente, présente son corps et présente le corps de ceux qui l'accompagnent.
Alors justement, vous travaillez sur l'intimité des présidents, Thomas Negaroff, dans un précédent ouvrage qui s'appelait « Dans l'intimité des présidents » chez Talendier. Et ce que vous racontiez, c'était le cœur meurtri de Roosevelt, mais que l'on cache parce qu'il faut donner une autre image. Le corps corps malade de Kennedy, mais qui doit quand même incarner la jeunesse, qui doit incarner la perfection. Carter, qui lui doit incarner au contraire le président normal, oui. Après cette période que vous venez de raconter. Trump, il renvoie quoi, lui, et son corps et lui renvoie quoi?
Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a parlé des années 80, mais en fait, si on dézoome un petit peu, depuis 1900, on a régulièrement des shoots de testostérone incarné par le président des États-Unis, pas à n'importe quel moment. Et c'est en ça que ça raconte beaucoup l'époque dans laquelle on vit. À des moments d'incertitude sur la masculinité. Aujourd'hui, on peut considérer que l'incertitude sur la masculinité, c'est les guerres embourbées des États-Unis des années 2000. C'est aussi, peut-être, MeToo et le backlash d'aujourd'hui sur ces questions-là. Et dans l'histoire américaine, il y a eu des moments comme ça où les Américains et les hommes américains se sont sentis en danger et ils ont choisi un président qui leur offrait une nouvelle masculinité très virile, avec l'idée de pionnier. Donald Trump a parlé de Mars, c'est pas inintéressant et c'est pas que pour faire plaisir à Musk. C'est parce qu'il veut réinvestir ce concept de l'Amérique des pionniers. Je pourrais vous raconter ces shoots de testostérone, on pourrait parler de John Kennedy par exemple.
Allez-y, oui. Pardon, finissez.
John Kennedy, par exemple, il succède à un président faible, c'est pas Joe Biden, mais c'est Dwight Eisenhower qui a fait une attaque cardiaque qui est très faible. Il y a Sputnik qui est envoyé dans l'espace, mon Dieu, on est en retard, c'est pas les Chinois, c'est les Russes à l'époque. Quelle est la réponse de Kennedy? Les gens seront peut-être étonnés de m'entendre faire un parallèle Kennedy-Trump, mais la réponse, elle est dans le corps. À l'époque, on dit quoi? Chez Kennedy, on dit, il n'y a pas qu'un missile gap avec les Soviétiques, il y a un muscle gap, un gap musculaire. Et donc, c'est à cette aune-là qu'on doit voir le corps de Kennedy.
Vous avez parlé d'un retour de bâton, en fait, et on se souvient parce que on a tous lu en fait au début des années 90 ce livre de Suzanne Falody qui s'appelait Backlash et qui racontait précisément ça, qui racontait que les années 80 c'est aussi ça, c'est le mouvement féministe Absolument. Négatif, les avancées du féminisme qui sont négatives et qui ont abîmé en fait d'une certaine façon l'homme. Est-ce que vous diriez qu'on est exactement dans le copier-coller en fait post-MeToo, au fond dans un backlash MeToo ou pas?
Je ne sais pas si c'est absolument l'équivalent, mais quand
backlash,
j'écoute...
retour de bâton.
Quand j'écoute, oui, absolument. Quand j'écoute Mark Zuckerberg dit qu'il considère que désormais la société est émasculé. Mmh. On voit bien de quoi il parle. Il parle pas du cerveau, hein. Il parle de l'émasculation. Et il dit que l'agressivité a du mérite. Il parle de ça. Et en effet, le parallèle est très puissant. Les années 80, c'est aussi les années, c'est pas uniquement les années qui suivent le Vietnam, c'est aussi les années qui suivent la loi sur l'avortement. Mmh. C'est les années qui suivent le triomphe des droits civiques. Et c'est une réponse à ces années-là qu'on le retrouve dans les années 80. Vous avez cité Rambo.
Ouais.
Rambo, c'est génial parce que Rambo, c'est un héros qui, en plus, non seulement est un héros viril et puissant, mais qui, et là ça rencontre aussi la politique et pas uniquement la culture, vient combattre tout seul parce qu'il n'y a pas eu les fonds délivrés par l'État pour aller aider les Américains qui sont pris en otage. Donc on voit bien que c'est une réponse à l'absence de l'État. La seule réponse à l'absence de l'État, c'est un homme fort.
Vous avez cité Mark Zuckerberg, et on a tous dit, quand on a lu ce qu'il dit, quand on a tous interprété ça comme un virage, en fait, oui. Le virage de Mark Zuckerberg, le virage de Facebook. Mais au fond, quand je le regarde, je me demande si c'est réellement un virage immédiat, parce que regardez justement son corps, Zuckerberg, il n'est plus l'espèce de post-adolescent sent un peu flasque avec un hoodie sur la tête qu'il était il y a encore quelques années. Aujourd'hui, effectivement, il y a eu cette histoire de combat de MMA avec Musk qui finalement n'a jamais eu lieu.
Ouais, mais c'est intéressant d'en parler.
C'est intéressant. Ouais. Et puis on voit son corps, il le montre, le gars fait du bodybuilding, il montre ses abdos, etc. Du coup, quand on voit ça, est-ce qu'on se dit pas finalement le virage de Zuckerberg, il est antérieur?
Et même le virage, mais ce virage de Zuckerberg, il raconte aussi le virage de la tech. Gilles Babinet a écrit un livre génial sur la naissance de la tech et d'Internet dans les années 70. C'était des hippies qui étaient bourrés de LSD. Mmh. On est passé à des hippies bourrés de LSD à des réactionnaires bourrés de testostérone. Mais c'est les mêmes. C'est les mêmes et il y avait des indices. Ils détestaient l'État. Mmh. Ils considéraient qu'il était une entrave à la liberté. Et donc, bien sûr, les temps ont changé, mais et Zuckerberg vraiment l'incarne parfaitement, c'est un très bon exemple de le prendre, mais Elon Musk aussi d'une certaine manière, même si son histoire est sud-africaine, elle est un peu différente, mais l'histoire de Zuckerberg, c'est effectivement l'histoire d'une forme de conversion, de transition, même si c'est un gros mot chez eux.
Est-ce qu'on dit du coup que, parce que je reviens au corps des présidents, ouais. Et notamment à leur intimité, est-ce qu'on dit qu'au fond, le dernier président démocrate qui incarnait une Amérique progressiste, etc., c'était Barack Obama? Et j'y pense parce que je pense à cette image de Barack Obama à Hawaï qui sort de l'eau, qui est plutôt beau gosse et en même temps qui en fait pas de tonnes. Et je compare cette image avec celle qu'on a vue hier, de Joe Biden qui se plie en 12 avec beaucoup de difficultés pour rentrer dans la voiture qui va l'emmener jusqu'au Capitole.
Et j'ajoute dans la corbeille des symboles, la mort de Jimmy Carter il y a quelques jours, qui raconte aussi la fin d'une Amérique. Mais au-delà de ça, il y a un lien tout de même entre Biden et Obama. C'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est la dimension cyclique des demandes parfois de virilité auxquelles succèdent des demandes d'empathie. Et les demandes d'empathie sont des présidences plus féminines. Mais si on veut parler du corps de Barack Obama, c'est passionnant, parce que Barack Obama est un corps différent de tous les autres corps présidentiels américains, c'est un corps noir, donc qui charrie énormément de préjugés sur la dangerosité du corps de l'homme noir, et qui par conséquent, et vous l'avez, et on en a beaucoup parlé ensemble à l'antenne à l'époque, il a dû contrarier ses préjugés en mettant en avant son caractère de family man, d'homme qui pense, qui d'ailleurs souvenez-vous, sa campagne en 2008, il dit l'Amérique a surtout un gap empathique. Donc il dit je dois répondre à l'interrogation du moment, à l'incertitude du moment par l'empathie, là où aujourd'hui on y répond par de la virilité.
Et en miroir à ce que vous dites sur Obama, on n'a pas raté les uns les autres dans le discours de Trump hier, ce passage où il remercie les hispaniques, où il remercie les noirs d'avoir voté pour eux, mais le souvenir que j'ai moi aussi de la période Obama précisément, c'est qu'il tensait les noirs, il l'a même fait pendant la campagne d'ailleurs, en leur disant allez voter et occupez-vous de vos familles. Qui est un miroir complètement inversé avec le message qu'envoie Trump et qu'il envoie aux hommes noirs également.
Bah oui, parce que quand on est Donald Trump, on peut le dire, si on est Barack Obama, du point de vue de l'électorat blanc, on est un noir qui se présente pour les noirs. Et souvenez-vous, quand il avait dit les hommes noirs doivent rester à la maison, arrêter de quitter leur foyer, vous vous souvenez de Jesse Jackson, qu'il avait traité, pardonnez-moi le gros mot, de fils de pute. C'est le même Jesse Jackson qui avait pleuré ensuite lorsqu'Obama avait gagné, mais Obama devait lutter contre les préjugés. Ce qui est fascinant avec Trump, c'est que tous les préjugés, en fait, le nourrissent. Souvenez-vous, quand il évoque, et on était en pile dans la question de la virilité, et on l'avait commenté ensemble, quand on l'entend dire qu'il veut attraper le sexe des femmes parce qu'il est célèbre et qu'il peut le faire et embrasser les femmes de force, on se dit tous avec nos grilles de lecture, bah, il est cuit, c'est fini. Sauf que c'est fini si ça vient à l'encontre de l'image qu'on a de lui. Or, pas du tout. L'image qu'on a de lui, c'est cette image-là, d'un homme qui organise des concours de Miss, d'un homme qui a des maîtresses, d'un homme qui est un homme viril. Et ce qui est ça qui est intéressant, c'est que l'horizon d'attente de l'électorat n'a pas été perturbé par des révélations sur Donald Trump. Au contraire, ça a même dit à quel point il était sincère.
Après, l'image, effectivement, de l'homme viril, le sport, vous l'avez dit, le MMA, enfin, et y compris ses électeurs, qui ont des camions, qui ont des gros pneus, etc., sans vouloir caricaturer, parce que c'est la réalité. Tout ça parle de la loi du plus fort, à la fin. Et quand on regarde sa politique, ça dit exactement la même chose. En termes de commerce, c'est la loi du plus fort. Face à Panama ou face au Groenland, c'est la loi du plus fort. On a l'impression que le corps répond à la politique et inversement.
Oui, et quand on pose la loi du plus fort comme étant le principe de base, on voit le parallèle entre Joe Biden et le déclin de l'Amérique. Si on pose la question, et il a d'ailleurs été très loin dans le lien entre son corps et le corps de l'Amérique, il a dit « j'ai failli mourir, Dieu m'a sauvé pour sauver l'Amérique ». Mais il a dit ensuite « et c'est ainsi que je comprends mieux les Américains, parce que moi-même, j'ai souffert ». Et donc c'est toujours la même histoire de « je serai le meilleur d'entre vous et d'entre nous, parce que je connais vos souffrances ». Et ça remet un petit peu en cause ce que je viens de dire, en distinguant un peu trop facilement peut-être virilité ou empathie. Pour beaucoup d'Américains, il est hyper empathique. Et puis juste, j'ajoute qu'à côté de cette question de la loi du plus fort, l'autre qui contrebalance, c'est la loi du bon sens. La loi du bon sens, elle est au cœur de la politique des populistes, et en particulier de Donald Trump. Il a parlé d'une révolution du bon sens, et cette révolution du bon sens, c'est à des problèmes complexes, et le monde est de plus en plus complexe, j'offre des solutions de plus en plus simples.
Il faut rajouter un chapitre, et même plusieurs, à l'intimité des présidents qui existe déjà chez Talendier, Thomas Negaroff. Merci beaucoup.
Merci.
La suite ce soir, c'est le reportage d'Un jour dans le monde. Ça se passe au Soudan, qu'on oublie trop souvent alors qu'il est dévoré par une guerre fratricide qui tue des civils dans des combats ou faute de nourriture. Pour aller jusqu'à 19h sous les radars, c'est vous Kevin Dufraîche.
En Thaïlande, des migrants Rohingyas désemparés.
Le Monde à 18h50, c'est vous Franck Madvon. Salut Franck.
Salut Fabienne, bonsoir à tous. Vous parliez avec Thomas Negaroff d'un Trump qui nous ramène aux années 80. On va voir qu'il est aussi déjà une figure du 21e siècle.
Hélène Chevalier au pays des 50 États, c'est une dernière. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Fabienne, et pour cette dernière chronique, je vous emmène dans la foule venue venus célébrer l'investiture de leur champion avec David, un supporter de l'Ohio, ravi qu'un homme, un vrai, soit de retour à la tête du pays.
Allez, ça va boucler la boucle avec ce qu'on vient de raconter avec Thomas. Le tour de la planète n'est pas fini, les amis, restez avec nous. Il passe par Glasgow avec ce groupe dont le titre le plus connu, Take Me Out, vient de passer la barre du milliard d'écoutes sur les plateformes. Kevin, vous l'avez ?
Franz Ferdinand.
Bah voilà, allez, c'est le choix de Djoubaka ce soir. Look forward to every day, oh my. Some days I just hit to try. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. If I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other, we turn to test each other, but we lean against each other. Le reportage ce soir est au Soudan et je vous préviens tout de suite, accrochez-vous. C'est le premier reportage d'une série de deux dans ce pays déchiré par une guerre loin des yeux du monde entier. Une guerre fratricide qui dure depuis 2 ans et vous ne savez même pas qui elle oppose, et bien c'est normal. En revanche, peut-être que vous vous souvenez qu'on a cru en 2019 que le Soudan pouvait se relever des années de sa terrible dictature. C'était sans compter la rivalité de deux généraux, Abdel Fattah al-Burhan et ses forces armées nationales, contre les milices paramilitaires des forces de soutien rapide du général Emeti. Le bilan de ce conflit, qui pourrait être de plus de 150 000 civils victimes de combats, de massacres, de faim et de crises humanitaires, tout cela est terrifiant et le reste, c'est Patricia Huon qui raconte.
Un adolescent gît sur un lit d'hôpital. Deux petites taches rouges sur sa poitrine marquent les points où des morceaux de métal ont pénétré sa chair. Penché au-dessus de lui, sa mère, vêtue d'un niqab noir, passe un mouchoir humide sur son visage brûlé par l'explosion.
Ses yeux lui font mal. C'est la police qui m'a appelé pour me dire que mon fils avait eu un accident. Il était dans un bus. Il revenait de l'école. Il a 12 ans.
À l'issue d'âpres combats, l'armée soudanaise a repris le contrôle de la plupart des quartiers d'Omdurman, l'une des 3 municipalités de Khartoum, la capitale. Malgré la destruction massive, un semblant de normalité y est revenu, avec toujours les salves d'artillerie en bruit de fond. Dans un tir croisé, les obus tombent, imprévisibles, et les civils subissent. À l'hôpital Al-Nour, le seul de la ville à disposer d'une capacité de prise en charge chirurgicale, les brancards se succèdent. Médecins et infirmiers s'activent, ils ont fait le choix de rester dans le pays malgré la guerre. Mais les moyens sont limités, explique le docteur Jamal Mohamed, chirurgien et directeur général de l'hôpital.
Les éclats d'obus pénètrent dans le corps à une grande vitesse et ils brûlent tout à l'intérieur. Les blessures les plus sérieuses sont celles au thorax et au cerveau. Elles sont difficiles à soigner et le taux de mortalité est très élevé. Nous essayons de faire de notre mieux. Mais pour la neurochirurgie ou une chirurgie cardiaque, il faut des équipements spécifiques. Nous n'avons pas ça ici.
Après plus d'un an et demi de combat, le Soudan est plongé dans une catastrophe humanitaire. Selon les Nations Unies, 14 millions de personnes ont été déplacées ou contraintes à l'exil. La faim est l'autre front de la guerre et tue à petit feu. Le service pédiatrique de l'hôpital ne désemplit pas.
L'enfant souffre de malnutrition sévère. Sa mère dit qu'elle a la diarrhée depuis 2 mois. La petite a 1 an, elle pèse 6,4 kilos. On va l'hospitaliser si Dieu le veut.
La mort est devenue familière. Pour la tromper encore un peu, on s'en remet à sa foi. Le prix des denrées alimentaires a explosé, l'économie chancelle et ils sont de plus en plus nombreux à dépendre des soupes populaires gérées par des volontaires à travers le pays. Deux grandes louches de foule, un plat traditionnel de haricots rouges assaisonnés d'ail et d'épices. Ce sera tout ce qui le remplira le ventre, parfois pour plusieurs jours, dit Sohanda Abdelwahab, qui nourrit plusieurs milliers de personnes chaque semaine.
Ce que les gens me disent, c'est qu'ils ont perdu leur travail, qu'ils n'ont plus aucun revenu. Pour beaucoup, ce sont les seuls repas pour la famille, 2 fois par semaine. Tous les dons viennent de la communauté et de la diaspora soudanaise. Il y a beaucoup de générosité.
L'an dernier, les comités d'urgence, ces initiatives civiles qui maintiennent le pays à bout de bras au milieu des combats, ont été nominés pour le prix Nobel de la paix.
Patricia Huon pour le reportage, merci beaucoup. Deuxième volet demain, ici même, dans Un jour dans le monde. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. Kevin, nous sommes d'abord en Colombie, où le président déclare la guerre.
Et ce non pas contre un autre pays, mais contre ses concitoyens, ceux de l'ELN, acronyme de l'Armée de Libération Nationale, une guérilla d'extrême gauche classée terroriste par les États-Unis et l'Union Européenne. Jeudi, l'ELN a mené une attaque contre des dissidents des FARC, ceux qui ont refusé l'accord de paix de 2016 entre le gouvernement et cette autre guérilla que l'on connaît en France. Parce que c'est ce groupe qui a retenu en otage Ingrid Betancourt pendant 6 ans. Ces affrontements ont fait plus de 100 morts depuis jeudi et 20 000 déplacés au sein de la population civile dans le Catatumbo, état du nord à la frontière avec le Venezuela, pays vers lequel d'ailleurs des centaines de Colombiens ont fui ces derniers jours. Le président Gustavo Petro a donc décrété l'état d'urgence. Par communiqué, il accuse l'ELN de crimes de guerre, la comparant au trafiquant Pablo Escobar. L'ELN a choisi le chemin de la guerre et il aura la guerre, écrit-il. Un changement de ton pour Gustavo Petro, homme de gauche, lui-même ancien guérillero, élu en 2022, en promettant le dialogue avec les différentes organisations armées de Colombie.
Nous sommes en Thaïlande, avec un naufrage.
Oui, 49 personnes échouées sur l'île touristique de Phuket. 49 migrants, Rohingyas, cette ethnie en grande majorité musulmane, persécutée dans leur pays d'origine, la Birmanie. Selon la police, ce sont des habitants des environs qui ont trouvé ces personnes dans un état physique très faible. Elles ont expliqué qu'elles se trouvaient à bord d'une embarcation transportant au total 75 personnes parties du Bangladesh pour tenter de rejoindre la Malaisie. Un voyage périlleux de plusieurs milliers de kilomètres en mer. Pour le moment, ces réfugiés sont pris en charge par les autorités thaïlandaises, mais elles annoncent déjà leur transfert, je cite, vers un pays tiers sans dire lequel. Chassés de leur pays, les Rohingyas sont des milliers à être hébergés dans des camps du Bangladesh, mais dans des conditions extrêmement précaires et sans perspective, d'où ces tentatives de départ qui se multiplient vers des pays musulmans.
Nous sommes au Japon, dans un aquarium, oui, donc vraiment dedans.
Celui de Shimonoseki, c'est dans le sud-ouest de l'archipel. Un aquarium qui abrite un poisson lune. Vous savez, ce sont ces grands poissons un peu étranges. Ils sont très gros et ils sont aplatis sur le côté. Eh bien, ces animaux sont aussi visiblement très sociables.
Ah oui.
C'est le grand quotidien Mainichi Shimbun qui raconte cette histoire. En décembre, l'aquarium ferme pour des travaux de longue durée jusqu'à l'été prochain. Quelques jours après seulement, le poisson lune en question qui y est hébergé ne mange plus et se recroqueville dans un coin. Les soigneurs pensent alors qu'il est malade, mais l'un d'eux se demande si ce n'est pas lié aux vibrations des travaux d'une part et à l'absence de public dans l'aquarium d'autre part. Le lendemain, il colle des visages humains sur l'aquarium accompagnés d'uniformes du personnel déposés sur un portant devant la vitre et tadam, Notre poisson lune se remet à nager dans tous les sens, en pleine forme, et il va très bien d'ailleurs aujourd'hui. La santé mentale des poissons lune, c'est quelque chose.
En même temps, il n'est pas très finaud. Hein. Kevin, merci beaucoup. Vous rentrez en passant par le Brésil, n'oubliez pas de changer à Châtelet avec Flavia Coelho, elle est installée en France depuis 20 ans maintenant. Bossa Muffine sur France Inter.
Num dia de chuva ele disse, tem que ter, jogar com a sorte, coragem, com um braço forte, oh, jogar com a sorte. Consigo conquistar com de viver e viajar e conhecer o mundo. Não vale a pena explicar. Te digo que ele tem um desses mistérios profundos que aprendeu na marra, na mata, com um índio guarani do terceiro mundo. Foi na África, viu Bangladesh, dormiu com o deus Ganesh. Ficou intrigado, quis ver com seus próprios olhos um arco-íris. Diz que essa viagem só o ajudou a descobrir povos desconhecidos que disseram pra ele que o homem é seu próprio inimigo. Consigo conquistar com braço forte, jogo com a minha sorte. Consigo conquistar com braço forte, jogo com a minha sorte. Conheceu povos arcaicos, novos renovados e povos esquecidos que o levaram numa cabana de bambu num lugar perdido. E tem que se adaptar, tem que comer tudo que oferecem, agradecer o dia fazendo uma prece. E depois de tanto viajar, decide que tem que acalmar. Tá pronto pra fixar, encontrar alguém pra tudo ensinar. Num dia de chuva se deparou com um garoto na rua que lhe ensinou. Me ensinou a oração para sempre recitar. Consigo conquistar com braço forte, jogo com a minha sorte.
Flavia Coelho, Bossa Muffin sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le Monde à 18h49, c'est Franck Madvon.
How dare you?
The world has changed.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Et on revient avec vous, Franck, sur la présidence Trump, au lendemain de son discours d'investiture. Vous nous dites pourquoi il ne fait plus de doute que Donald Trump est déjà entré dans l'histoire mondiale.
Oui, alors l'idée n'est pas de trancher ce soir la question. Trump est-il une figure du bien ou du mal? Jouera-t-il un rôle positif ou négatif aux États-Unis, dans le monde? La réponse est forcément subjective. Et vue de France, un pays qui porte un regard à la fois étonné, admiratif et vaguement condescendant sur l'Amérique, on devine de quel côté la balance pourrait pencher. Non, le sujet serait plutôt quelle est l'influence de Trump? Va-t-il peser dans l'histoire des États-Unis, de la planète? Et là-dessus, on peut l'affirmer, au lendemain de son investiture, le milliardaire républicain est d'ores et déjà une figure majeure du 21e siècle.
Ce premier jour du deuxième mandat, Franck, a vraiment apporté de nouveaux éléments sur le 4-1.
Il n'y a pas eu de révélation, hein, tout était écrit dans les discours de campagne, les interviews, les messages sur les réseaux sociaux. Mais hier, Donald Trump a tout condensé en une journée de pompe et de cérémonie. Un discours d'investiture très structuré, détaillant les grands axes de sa politique. Plus tard, une rafale de décrets pour graver dans le marbre des principes, des marqueurs de son second mandat. Lutte contre l'immigration, une urgence nationale qui justifie le déploiement de l'armée à la frontière, rejet du multilatéralisme, sortie de l'OMS ou de l'accord de Paris sur le climat, guerre culturelle, reconnaissance de deux sexes, hommes et femmes, grâce accordée aux assaillants du Capitole, guerre commerciale, création d'une agence pour collecter les droits de douane. Et entre ces deux moments, un peu de folie, beaucoup d'improvisation, voire d'humour façon Trump, la preuve d'une maîtrise parfaite de la communication moderne.
Et alors ça suffit pour en faire un président qui entre dans l'histoire?
En tout cas, on a pu penser que le premier mandat de Trump, Fabienne, était une parenthèse. On a même pu considérer que sa victoire en novembre était juste le fruit d'une belle campagne énergique face à une adversaire faible, terne. On doit reconnaître aujourd'hui que Donald Trump est un homme en phase avec son temps, un politicien qui sent l'époque mieux que personne, un président déterminé à laisser une empreinte dans l'histoire. Il a fait le pari que les Américains étaient lassés de leurs élites, qu'ils en avaient marre des régulations, du rôle trop important joué par l'État dans leur vie, qu'ils voulaient retrouver leur liberté de parole, l'attachement à leur pays. Et c'est en misant sur ces valeurs que Trump est passé en 10 ans des marges au centre de la scène mondiale.
Car son influence dépasse bien sûr les frontières des États-Unis.
Alors certes, c'était déjà le cas lors de son premier mandat, mais Trump n'était pas allé au bout de ses idées. Un peu d'autocensure sans doute et beaucoup de résistance au sein de l'État. Cette fois, le America First sera bien plus qu'un slogan. Trump veut imposer au monde la puissance économique des États-Unis. Si vous ne me donnez pas ce que je veux, vous en payerez le prix. C'est le discours qu'il tient déjà sur le Groenland, le canal de Panama ou dans les négociations à venir avec le Canada, le Mexique, la Chine, peut-être demain l'Europe. Et il compte de nombreux alliés. Le mouvement réactionnaire progresse en Europe, en Amérique latine, en Asie. Trump en est le chef, le pionnier et déjà pour beaucoup un modèle, une icône.
Le Monde à 18h49 de Franck Madvon. Franck, merci beaucoup. À demain, le mardi, et pour la dernière fois cette saison, puisque l'élection américaine, cette fois-ci, est définitivement pliée. Hélène Chevalier, Hélène au pays des 50 États.
France Inter. We are
Americans. Et pour cette ultime chronique, Hélène, vous êtes en compagnie de David. C'est un Trumpiste de l'Ohio, totalement euphorique.
Oui, je l'ai rencontré dans la longue et glaciale file d'attente pour assister à l'investiture de Donald Trump. À l'origine, la cérémonie aurait dû avoir lieu devant le Capitole et les supporters réunis sur le Mall, la vaste esplanade qui lui fait face. Mais au vu des températures polaires, les écrans géants ont été remballés et le public orienté vers la Capital One Arena, une salle habituée à accueillir des basketteurs ou des hockeyeurs et dont la capacité est limitée à 20 000 personnes. Pour maximiser mes chances, j'ai donc décidé de m'y rendre tôt, un peu plus de 4 heures avant le début de la cérémonie, avec à peu près 8 couches de vêtements. C'est donc tout en mitouflé que j'ai rencontré David, en grande forme malgré sa nuit blanche.
Hey, hey, ho, ho, we're really glad that Biden's gone because he was a terrible president.
Et j'ai aussitôt repéré le quadragénaire à la barbe épaisse dans la queue, bien décidé manifestement à réchauffer l'ambiance en donnant de la voix régulièrement. Les moins 15 degrés ressentis ne l'ont même pas empêché de faire tomber le manteau pour dévoiler son t-shirt de Trump, représenté en Thor, le super-héros au marteau. Accompagné d'un ami beaucoup plus discret, ils sont partis à 22h la veille de l'Ohio pour être dès l'aube à Washington pour l'investiture.
Le trajet était censé durer 7 heures, mais il en a plutôt duré 9.
Donc vous avez conduit toute la nuit. Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui ?
Je pense que c'est le moment où mon pays va, je l'espère, reprendre la bonne direction.
Alors ça va commencer par quoi pour David, ce Golden Age, cet âge d'or tant promu hier par Donald Trump ?
Ce qui me préoccupe le plus, c'est que tous les manifestants du 6 janvier, tous ceux qui étaient pacifiques, je veux qu'ils soient graciés et j'espère que tous ceux qui ont participé, ceux qui les ont inculpés et jetés en prison sans respecter les procédures légales, je veux que ces personnes soient poursuivies.
Là, il doit être content puisque quelques heures après notre interview, le nouveau président a gracié presque la totalité des 1600 assaillants. On a profité des 4 heures à avancer péniblement dans un labyrinthe de barrières pour faire le tour des autres sujets importants pour lui. L'immigration, un dollar fort, la fin de l'accord de Paris sur le climat. L'ironie, c'est qu'il travaille dans une usine de panneaux solaires. Et puis pour ce père de 2 adolescents, dans l'Amérique de ces 4 prochaines années, la transidentité n'existe plus.
Certaines écoles ont laissé de jeunes garçons entrer dans les toilettes des filles juste parce qu'ils prétendent en être une, et je pense que c'est mal. Vous savez pourquoi ? J'ai une fille, j'ai une femme. Nous devrions tout faire pour protéger les femmes, les enfants, les filles. Ils ont besoin que les hommes disent « Vous n'irez pas dans ces toilettes simplement parce que vous prétendez être une fille. »
C'est à ce moment-là qu'on a glissé sur l'autre grand combat de David. Très content d'ailleurs que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, s'en empare à son tour récemment, le retour du virilisme.
Ces quatre dernières années, on a assisté à une attaque contre la masculinité. La gauche utilise des termes comme « masculinité toxique ». La façon dont j'ai été élevé et ce que j'ai vu, c'est que la masculinité est là pour protéger nos femmes, les servir et les aimer. Je vais travailler tous les jours pour que ma femme puisse rester à la maison et élever mes enfants parce que, pour moi, c'est le plus beau métier. Elle élève mes enfants, elle les éduque. Maintenant, quand je rentre à la maison, je l'aide, bien sûr.
J'avoue, la conversation sur ce sujet m'a semblé assez longue. Pour résumer, les femmes sont fortes, mais dans l'empathie, elles ne peuvent pas combattre en tant que soldats. Et la masculinité, c'est prendre les meilleures décisions sans s'embarrasser des conséquences pour les autres, un exercice dans lequel Trump excelle.
S'il offense quelqu'un dans l'intérêt de l'Amérique, s'il contrarie quelqu'un, comme se retirer de l'accord de Paris sur le climat, et qu'il met un tas de pays en colère contre nous parce que nous ne leur donnons plus d'argent, c'est masculin, parce qu'il pourrait être apaisant et dire « voici de l'argent juste parce que j'essaie d'apaiser tout le monde ». Ce n'est pas ce qu'il fait. Il dit « je vais faire ce qu'il y a de mieux pour mes compatriotes ». C'est ce que je veux comme dirigeant, comme président des États-Unis.
Et avec tout ça, il est déjà 11h30 et si l'aréna est en vue, il semble que nos chances pour y rentrer soient compromises. C'est donc sur l'écran géant, à l'extérieur, que l'on se retrouve à regarder Donald Trump prêter serment. David exulte.
Notre président n'est plus nul. Il est capable d'aligner deux phrases. Il sait où il est.
Avant de partir, notre conversation a ripé sur le communisme. C'est un peu le point Godwin des Trumpistes.
Je sais très bien ce qu'est le gouvernement en France.
Ah non, la France n'est pas un pays communiste.
Ce n'est pas du communisme à l'état pur, mais c'est vraiment très à gauche. Je sais que vous vivez ici, mais vous avez vu comme l'Europe s'est dégradée, ce qu'il s'y passe.
Qu'est-ce que l'Europe devrait faire ?
Je pense que vous devriez ressembler davantage à l'Amérique.
Ah bah parfait. Merci David pour cette transition. Il est temps pour cette chronique de retourner à l'heure européenne. Ravi d'avoir passé ces quelques mois avec vous. Et welcome back, Caroline.
Ah, c'est vrai que pour une dernière, c'était un vrai. Merci pour la transition, en effet, qui est parfaite. C'est vrai que mardi prochain, c'est le retour de Caroline Gillet qui nous fait entrer dans les institutions européennes par les grandes et les petites portes. Mais grand merci, Hélène Chevalier, de nous avoir accompagnés pendant toute cette période américaine avec vos portraits d'Américains. Les portes d'un jour dans le monde vous restent évidemment ouvertes. Et des bisous.